Au Carnet de l'économie, cette semaine, en compagnie de Thomas Gebin, chercheur au Centre d'études prospectives d'information internationale, auteur avec Fabien Tripier d'un article « Finance et croissance, le court terme aux dépens du long terme ». Et on avance un petit peu dans votre démonstration. Et Thomas Gebin, en revenant sur ces 30 ans de bulle pour la croissance, c'est bien cela qui s'est passé, ce qui complique encore un peu la donne.
Oui, en tout cas, c'est une question qui a été opposée notamment par les économistes américains Lawrence Summers et par le prix Nobel Paul Krugman, qui regardent en fait la croissance des 30 dernières années. Et ce qu'ils voient, c'est qu'il semble que la croissance a été en grande partie nourrie par des bulles. Ça a été le cas dans les années 80, notamment aux États-Unis, vous avez eu la bulle de l'immobilier commercial sous Reagan. Vous avez aussi dans les années 80 beaucoup de bulles immobilières dans les pays de l'OCDE. Dans les années 90, vous avez eu la bulle Internet. Et dans les années 2000, vous avez eu la bulle immobilière, bien sûr, aux États-Unis, mais également dans beaucoup de pays européens. On peut citer l'Irlande, l'Espagne, donc le Royaume-Uni, la France.
Ça n'était pas des croissances, disons, raisonnables. Ça n'était pas des croissances soutenables.
C'est une question qui peut se poser. C'est quelle aurait été la croissance ces 30 dernières années en l'absence? Et c'est une question qui semble d'autant plus pertinente aujourd'hui qu'il semble qu'on observe un retour de hausse très importante des prix. C'est peut-être un peu tôt pour parler de bulles, mais par exemple en Irlande, qui avait connu des hausses spectaculaires de prix immobiliers dans les années 2000, de 2014 à 2016, les prix immobiliers ont augmenté de 30%. Au Royaume-Uni, ces deux dernières années, les prix de 20%. Aux États-Unis, depuis 2012, de près de 30%. Donc c'est un peu inquiétant parce que qu'on peut avoir l'impression, c'est qu'il y a un éternel recommencement. C'est toujours, depuis les années 80, les mêmes mécanismes qui se reproduisent. Au milieu des années 80, vous avez une libéralisation financière. Cette libéralisation financière a conduit à un développement du crédit dans la plupart des pays avancés. Ce crédit a lui-même nourri des booms ou des bulles immobilières. Et il y a un moment où vous avez des retournements et ça provoque des crises bancaires. Donc on a beaucoup parlé, l'actualité oblige, de la crise de 2007, des conséquences désastreuses pour les banques de la crise de 2007. Mais il s'est passé presque exactement la même chose dans les années 80. Et par exemple, entre 86 et 91, il y a près de 900 banques aux États-Unis qui ont été fermées ou aidées par le fonds d'assurance des dépôts bancaires. On a aussi également parlé beaucoup, suite au subprime, des créances douteuses. Il faut voir que, par exemple, la Banque de France estime qu'en 92, 40% des crédits d'immobilier d'entreprise étaient des créances douteuses. Donc c'est quand même un peu inquiétant aujourd'hui s'il y a de nouveau des phénomènes de surévaluation de prix d'actifs.
On va se retrouver dans des situations comparables.
Voilà.
Et en gros, à quand la prochaine crise alors ? Financière, donc économique à la suite.
C'est ça. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la variable d'ajustement depuis 30 ans, c'est une montée de l'endettement privé. Aujourd'hui, on est à un niveau d'endettement privé au niveau agrégé qui sont records. Le niveau est presque deux fois plus élevé que les niveaux les plus élevés des années 30, il y a plus de 100 ans. Donc c'est quand même très inquiétant parce que chaque fois que vous avez un cycle, en fait, vous avez une montée de l'endettement privé et cet endettement ne baisse pas. Et donc on peut se demander jusqu'à quand ce système peut fonctionner.
Mais le fait qu'on prédise aujourd'hui une croissance relativement, pour pas dire molle, mais enfin en tout cas bien plus lente que ce qu'on a connu. On parle même de stagnation séculaire, qu'on n'irait pas bien au-delà des fameux 3-4% peut-être. Est-ce que ça change la donne ?
Je parle
des pays développés pour l'instant.
Ça change la donne parce que la question c'est comment faire de la croissance en l'absence de bulles. Donc par exemple le FMI et l'OCDE recommandent des politiques qui sont beaucoup plus vertueuses, par exemple des politiques de relance de l'investissement via les infrastructures qui permettraient par exemple d'avoir un effet d'entraînement sur le secteur privé et d'augmenter les gains de productivité. Le problème avec ces politiques, ce sont des politiques qui sont assez longues et lentes à mettre en œuvre et à donner des résultats. On voit ça avec le plan Juncker. À l'inverse, essayer de relancer le marché immobilier, c'est beaucoup plus risqué, mais l'avantage pour les gouvernants, c'est que ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides.
Merci Thomas Gebin. Donc croissance long terme, court terme, croissance versus finance. On y revient demain avec quelques exemples de pays au Carnet de l'économie.